la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à la croyance, Sébastien De Guiese se penche sur les croyances contemporaines.
Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de notre quatrième saison consacrée cette année à la croyance. Nous avons vu le mois dernier l'éthique des croyances et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sébastien De Guiese qui nous fait l'honneur de venir depuis Fribourg où il est enseignant-chercheur à l'université, plus précisément au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'université de Fribourg dans le canton du même nom. Alors vous avez commencé votre carrière de psychologue comme clinicien, voilà. Puis vous avez, si on peut dire, élargi vos centres d'intérêt à des objets plus sociaux, comme le complot, la post-vérité, ce qu'on appelle le bullshit, qu'on peut traduire par baratin ou fadaise, un thème qui a été théorisé par un philosophe américain, Harry Frankfurt. Et vous êtes également intéressé donc aux fake news et aux croyances. Alors le livre sur le complotisme est de 2021, qui s'intitule « Complotisme, cognition, culture et société ». Le livre sur la post-vérité, c'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France, en 2018. Dans la même veine, vous avez publié « L'expertise sans peine », qui est une critique féroce et férocement drôle de la pseudo-expertise, des pseudo-experts qu'on entend, qu'on peut voir dans toutes les médias, dans toutes les formes de médias. Alors, il ne s'agit pas d'un livre qui est une critique de l'expertise. Il existe une authentique expertise qui demande du temps et du travail, mais d'une sorte de... Comment dire ? C'est du... De la... Ah, je cherche le mot. C'est du baratin habillé sous la forme de... sous les oripeaux de l'expert. Mmh. Vous avez également publié « La force de nos bugs ». Alors, ça, c'est, que je ne me trompe pas, 2023. Cette force de nos bugs, on la connaît tous, on en est tous victimes. Hein. C'est ce que vous appelez la ménagerie des erreurs, des petites erreurs, le petit lapsus, jeter la cuillère à la poubelle et mettre le pot de yaourt dans le réfrigérateur, frapper à la porte de son bureau avant d'entrer, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais oui. Surtout, à la fin de cet ouvrage, ce que vous montrez, c'est que c'est pas de la psychopathologie, qu'il n'y a pas lieu de se livrer à des sortes de surenchères herméneutiques.
Oui, c'est ça.
Voilà, et notamment vous critiquez le freudisme, en tout cas sur cet aspect-là de la psyché.
Sur l'idée que les erreurs seraient nécessairement révélatrices de quelque chose de plus profond.
Voilà. La force de nos bugs, on pourrait traduire par la farce de nos bugs. C'est notre cerveau, finalement, qui nous fait des petites farces.
C'est ça.
Et si vous utilisez le mot bug, et je sais que vous êtes attaché à une utilisation précise des mots, est-ce que vous considérez que le cerveau est un ordinateur, puisqu'il est susceptible d'avoir des bugs ?
Bon, ça, c'est une vieille question. Le cerveau a été considéré comme tout un tas de choses, un système hydraulique, un système téléphonique. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un ordinateur, quoi. Dans un sens trivial, oui, c'est un ordinateur dans la mesure où c'est un computer, c'est un machin qui fait des calculs, quoi, qui compute. Donc, le cerveau fait des calculs, mais évidemment, il y a beaucoup de différences entre les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui et l'évolution du cerveau humain.
Ouais, c'est tout au plus une image. Quoi.
Oui, c'est une analogie qui a ses limites.
Et enfin, vous avez publié en 2022 aux éditions Elliott, qui est une relativement jeune maison d'édition parisienne, « Croyez, pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit ». Alors, quand on lit le titre, on se dit « Ah, ben, y a eu un bug, hein, une coquille, l'éditeur n'a pas fait attention, ou alors l'auteur fait des fautes de syntaxe ». Ce n'est pas ça du tout. Et nous allons voir justement aujourd'hui, avec cette conférence, ce qu'est la croyance. Je vous écoute.
Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour avoir un peu une vue d'ensemble, il a été dit, j'essaie de mener une réflexion depuis quelques années sur la nature des idées, des échanges qui peuvent circuler dans la société contemporaine, les méthodes de communication, de pseudo-communication, les méthodes de manipulation qui peuvent être utilisées, avec comme angle souvent la thématique de ce que j'appelle le complotisme contemporain, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Ces réflexions m'ont amené à m'interroger au fait sur la nature de ce type de croyances, ou du moins ce qu'on appelle souvent des croyances, qu'on peut entendre les gens aujourd'hui croient n'importe quoi, toutes ces croyances qui circulent, il n'y a aucune preuve. Et donc, ces thématiques-là sont souvent discutées sous cet angle-là. Donc ça m'a fait réfléchir, je me suis demandé si véritablement il s'agissait de croyances ou d'autres choses. Et en fait, tout ce que je vais dire aujourd'hui, grosso modo, vous pouvez le trouver dans ce livre Croivé, probablement expliqué un peu plus rigoureusement et un peu plus clairement que ce que je vais faire ou essayer de faire à présent. Alors, je rentre directement dans la matière. Voici un résumé de ce que je vais dire, ce dont je vais tenter de vous convaincre, ou en tout cas d'attirer votre attention sur ces quelque chose. Premièrement, il est vrai que nous tous, parfois, nous croyons des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Il nous arrive de nous tromper. Mais le plus souvent, nous croyons des choses vraies. En réalité, je dis même que la plupart des choses que nous croyons, l'immense majorité de nos croyances, sont non seulement vraies, mais absolument banales, triviales, n'ont pas grand intérêt et on n'en fait pas toute une histoire. Par exemple, vous croyez que pour sortir de cette salle, il faudra probablement traverser une porte. Vous croyez que la personne qui est en train de s'exprimer devant vous est probablement un être humain, etc. Et ces croyances n'affleurent pas à votre esprit, vous les tenez simplement pour vraies, elles le sont. Ce qui fait que certaines choses que nous appelons croyances, à mon avis, ne sont pas vraiment des croyances, en tout cas pas des croyances ordinaires, ou le genre de croyances sur lesquelles on ne se pose pas tellement de questions. Le corollaire de ce point, c'est que beaucoup de choses qui sont des croyances, on ne les considère pas vraiment comme telles, ou on ne se pose pas tellement de questions à leurs propos. Ce n'est pas le genre de choses qu'on va dire « ça, ce sont mes croyances ». Typiquement parce qu'elles sont banales, elles sont vraies, elles sont largement partagées, et du coup, elles deviennent presque transparentes à notre esprit. Je vais encore un pas plus loin, puis ça, c'est un peu peut-être la pilule qui est la plus difficile à avaler dans tout ça, hein. C'est l'objet de cette thèse des croyances. C'est que j'affirme que nous pouvons parfois avoir l'impression de croire des choses auxquelles, au fait, nous ne croyons pas. En d'autres termes, nous pouvons croire que nous croyons. Et c'est ça que j'appelle croiver. C'est une illusion de croire. Bien souvent, les gens, nous tous, pensons croire quelque chose, mais en réalité, nous n'y croyons pas. Croiver produit des choses que j'appelle des croivances et que je conjugue comme telles. On pourra revenir, si vous voulez, plus loin dans la discussion sur l'usage de ce mot. Peut-être que ça vous intrigue, peut-être que ça ne vous plaît pas. Je t'entends en parler, mais tout à l'heure. Ce qui nous amène à nous interroger quand même sur finalement qu'est-ce que c'est que croire. Puis évidemment, là, ça part un peu dans tous les sens. Il y a quand même une longue, longue, longue tradition, notamment en philosophie occidentale, sur la nature de la croyance. Alors, j'ai une petite liste ici de choses qui viennent à l'esprit quand on parle de croire. Une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui me permet, disons, d'introduire un peu le sujet. Alors, premièrement, il n'y a pas vraiment de controverse en philosophie sur une sorte de tension qui existe dans l'usage du verbe croire entre la notion de confiance et d'incertitude. C'est un peu curieux quand on y pense, mais quand on utilise le verbe croire, c'est souvent pour dire que nous accordons notre confiance en quelqu'un ou en telle ou telle proposition ou telle idée. On dit on y croit, j'ai toujours cru en toi, tu vois, j'avais raison, tu voulais pas me croire, toutes sortes d'expressions qui relèvent de la confiance. Mais dans le même temps, croire connote souvent une certaine forme d'incertitude. À quelle heure part le train ? Je crois que c'est à 7h15. On aimerait quand même être sûr que le train part à 7h15. Donc si on vous dit « je crois que le train part à 7h15 », va s'engager sans doute une procédure de vérification pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et donc « je crois que » dénote souvent une certaine incertitude. Cette tension entre confiance et incertitude, bien sûr, se retrouve dans l'usage principal, en fait, du verbe « croire » et du mot « croyant », qui est dans le registre de la religion, domaine qui monopolise quasiment les usages de la croyance, en tout cas dans la littérature contemporaine, sur le sujet. Par exemple, Roger Pouivet, qui s'exprimait ici le mois dernier, a fait un petit livre chez Vrin qui s'intitule « Qu'est-ce que la croyance ?» ou « Qu'est-ce que croire ?» Mais en fait, ça concerne quasiment que la croyance, exclusivement la croyance religieuse. Ça parle quasiment que de ça, alors qu'en fait on peut croire tout un tas d'autres choses qui ne concernent pas nécessairement la religion. Mais enfin, le concept de foi dénote bien cette tension, à mon avis, hein, entre confiance, on accorde notre confiance à telle ou telle religion, tel ou tel dogme, telle ou telle écriture, telle ou telle autorité religieuse, en sachant tout de même que cette confiance doit être accordée précisément parce qu'elle a besoin de cette confiance, puisque les notions, les dogmes, les idées religieuses sont précisément le genre de choses qui demandent qu'on y accorde notre confiance, puisqu'elles ne sont pas nécessairement évidentes d'elles-mêmes. Enfin, je ne rentre pas tellement là-dedans, je vais parler très peu de religion, justement. Mais c'est juste pour signaler que quand on parle de croire, je souhaiterais en tout cas qu'on élargisse le concept à tout un tas d'autres choses. Je peux croire qu'il reste une bière dans le frigo. C'est un usage du verbe croire tout à fait légitime, qui n'a rien à voir ni avec la politique ni avec la religion. Toujours en ligne avec ces idées de confiance, d'incertitude et de religion, il y a, si vous voulez, le côté sombre de la croyance, qui est souvent synonyme de crédulité ou d'irrationalité. Alors, on dit souvent, ces gens-là sont dans la croyance. Monsieur, vous êtes dans la croyance, ce qui veut dire que vous êtes irrationnel et vous gobez des choses pour lesquelles vous n'avez pas de preuves. Très souvent, d'ailleurs, on oppose croyance et connaissance, et en particulier science et croyance. Vous avez des livres qui portent ce titre. Comment distinguer ce qui relève de la science et ce qui relève de la connaissance ? Bien évidemment, il existe tout un tas d'idées, de croyances complètement fausses. Souvent, elles sont basées sur des causes et des raisons qu'on pourrait considérer comme irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas à certaines normes de rationalité. Mais ça reste des croyances, qu'elles soient fausses ou même irrationnelles. Juste un petit mot pour ceux qui s'intéressent à l'épistémologie. Depuis très longtemps, hein, au moins depuis Platon, on considère qu'une connaissance, un savoir, c'est une croyance vraie et justifiée. Donc, dans la notion de savoir, dans la notion de connaissance, il persiste tout de même cette idée de croyance. Quand vous savez quelque chose, eh bien, vous croyez que c'est vrai. Et non seulement vous croyez que c'est vrai, mais en fait c'est vrai, et vous avez des bonnes raisons de croire que c'est vrai. Vous avez des preuves, vous avez des arguments, vous avez réfléchi à la question, etc. Mais toujours est-il que cette tension entre science et croyance, croyance et connaissance, est souvent au cœur de discussions qui n'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Enfin, l'idée de croyance, l'envers de cette notion de crédulité et d'irrationalité, c'est le côté positif, on va dire, ou valorisant de la croyance qui relève de notions autour de l'identité, l'identité personnelle, l'identité culturelle, l'identité sociale, et la liberté, bien sûr, la liberté de croire, en fait, ce qu'on veut. Dans ce sens-là, les croyances sont pas uniquement irrationnelles, stupides ou dangereuses, elles sont aussi porteuses de signification pour les individus. Et même dans un sens, elles sont souvent considérées comme sacrées. Ce qui fait que j'aborde un sujet qui est quand même assez délicat, puisque c'est déjà compliqué de dire aux gens que leurs croyances sont inexactes ou dangereuses ou bêtes. Mais en fait, c'est ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que ces croyances, en fait, c'est pas des croyances du tout. Vous affirmez croire quelque chose, mais en fait, vous y croyez pas. C'est encore plus délicat, et peut-être qu'on pourra revenir à la fin dans la discussion sur le caractère quand même un peu provocateur de cette thèse. Alors, tout ça laisse songer que finalement le concept de croyance est assez élusif, évasif, insaisissable, et que dans le fond on a affaire à une question de sémantique. Voilà, c'est un verbe, un mot qu'on utilise pour tout un tas d'usages différents, et finalement il y a assez peu de chances qu'on puisse opérer une sorte de réduction conceptuelle, analytique, pour aboutir à l'essence de ce que c'est que véritablement croire. C'est juste il y a plusieurs acceptions, et il faut faire avec, et de toute façon n'importe quel locuteur compétent utilise la plupart du temps le verbe croire à bon escient, que les gens comprennent quand quelqu'un dit « je crois telle ou telle chose ». Généralement, pas de problème autour des usages ordinaires du verbe croire. Et pourtant, je pense, avec d'autres gens qui ont travaillé sur la question, en particulier Pascal Angèle, qui affirme qu'il existe des normes de la croyance, je pense qu'effectivement, on peut quand même, en y réfléchissant, tomber d'accord au moins sur quelques traits minimaux de ce que c'est que la croyance. Et ce que je fais pour tenter de transmettre cette idée, c'est une expérience de pensée qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je crois avoir inventé ça. Ça donne de temps en temps quelques résultats, des fois ça marche pas tellement, mais j'aimerais essayer ça avec vous. Alors vous connaissez tous le génie de la lampe, hein, dans l'histoire d'Aladin. Donc, la plupart des gens n'ont absolument aucun problème à comprendre comment ça marche, hein. C'est très bien, c'est pas compliqué, il faut frotter la lampe. Une fois la lampe frottée correctement, le génie sort, et oreille attentive et bon vouloir, tes désirs, mon maître, sont tes désirs sont des ordres. Je ne sais plus comment exactement c'est dans l'histoire. À ce moment-là, vous pouvez demander quelque chose, n'importe quoi, et le génie exauce votre vœu. C'est un truc qui marche avec les tout petits enfants, ils comprennent, tout le monde comprend ça de façon assez intuitive et spontanée, probablement parce que c'est une sorte de fantasme archaïque. Souvent on n'arrive pas à obtenir des choses qu'on aimerait bien, souvent c'est compliqué d'agir dans le monde pour que les choses deviennent telles qu'on les souhaite, tout ça. Donc ce serait quand même chouette, ce serait sympa d'avoir un système qui permette d'exaucer les vœux en claquant des doigts à l'instant, et obtenir là directement tout ce qu'on veut, surtout quand on est frustré, quand les choses marchent pas très bien, etc. Donc tout d'un coup on peut devenir calife à la place du calife si on le souhaite, on peut avoir un grand palais, tout ce qu'on veut. Que feriez-vous si vous aviez cette lampe entre vos mains, et en particulier les versions les plus intéressantes qui sont celles où il y a un nombre limité de vœux. Par exemple, vous avez 3 vœux. Il faut bien choisir, hein, faut pas dilapider vos vœux. Donc, quels sont les vœux que vous souhaiteriez exaucer? Ce que je vous demande d'envisager à présent, c'est un autre génie, le génie des croyances. Ce génie-là a la particularité d'exaucer les croyances, entre guillemets. Hein, il ne peut pas exaucer les vœux, mais il peut rendre vos croyances vraies. Et donc, il vous demande, maître, quelle croyance souhaiterais-tu que je rende vraie? Et admettons que vous avez 3 ou 5 essais. Essayez d'imaginer laquelle de vos croyances voudriez-vous que le génie rende vrai. Alors, quand je pose la question aux étudiants, on obtient des choses assez amusantes, des fois assez touchantes, évidemment, puisqu'on a, on est dans un registre souvent qui relève de l'intime. Mais je ne sais pas, j'invente un peu des exemples comme ça, mais un étudiant m'avait dit quelque chose dans le genre, eh bien... ma mère souffre d'une maladie grave, je crois fermement qu'elle va guérir, eh bien, j'aimerais bien demander à ce génie que ce soit vrai qu'elle va guérir. Quelqu'un d'autre m'avait dit que j'aimerais, je crois fermement en l'égalité des hommes et des femmes sur Terre, donc j'aimerais que ce soit vrai qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes sur Terre, etc. Quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre quand même, et certains étudiants me font remarquer, ils flairent le piège quand même, ils se disent « mais attendez, ça colle pas votre truc, on peut pas exaucer des croyances, ça n'a aucun sens ». Premièrement, si vous tenez quelque chose pour vrai, par exemple, vous êtes sûr et certain qu'il reste une bière dans le frigo, vous pourriez très bien demander à ce génie qu'il rende cette croyance vraie. Et à ce moment-là, le génie, une sorte de paresseux, il n'aurait rien à faire, en fait. Donc vous auriez dilapidé un de vos vœux pour rien. C'était déjà vrai, en fait. Donc si vous ne voulez pas dilapider vos vœux, vous devez songer à des croyances... qui pour vous, en fait, ce serait bien qu'elle soit vraie. Mais à ce moment-là, on commence à réaliser où est le piège, c'est que, dans le fond, les genres de choses que vous avez demandées, c'est le genre de choses auxquelles vous ne croyez pas vraiment, puisque vous voulez que ça devienne vrai. Et donc, vous n'y croyez pas. Donc, première norme de la croyance, les croyances sont orientées vers la vérité. Vous croyez que quelque chose est vrai. Vous n'avez pas besoin de le rendre vrai, vous n'avez pas besoin d'un génie pour ça. Si vous avez besoin d'un génie, c'est que vous n'y croyez pas. Et donc, que ce n'est pas véritablement une croyance. D'autre part, les gens sont assez intrigués par cette expérience de pensée parce qu'ils ne savent pas tellement quoi demander. La tendance est de se diriger vers des souhaits, des envies, des choses qu'on voudrait qu'elles deviennent vraies. Mais ce n'est pas ça, des croyances. Une autre caractéristique des croyances apparaît alors, c'est qu'en fait, la plupart de nos croyances, on les tient déjà pour vraies. On n'a pas exactement besoin qu'elles deviennent vraies, auquel cas ce ne serait pas véritablement des croyances. Et dans un sens, elles sont transparentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement un accès conscient et direct à ces croyances, puisqu'elles font déjà partie de notre ameublement mental sur comment est le monde autour de nous. Enfin, quelqu'un pourrait demander de très bonne foi qu'une de ses croyances devienne vraie, même s'il pense qu'elle l'est déjà, ce serait quand même bien qu'elle devienne vraie. Mais à ce moment-là, on a un autre problème, c'est que si votre croyance était fausse, par exemple, vous dilapidez un de vos vœux, vous dites « Ah, je crois qu'il reste une bière dans le frigo, j'aimerais que ce soit vrai ». Vous ouvrez le frigo et y a une bière. Donc, vous ne savez pas si elle y était déjà ou si c'est le génie qui l'y a mise. Si c'est le génie qui l'y a mise, votre croyance était fausse. Donc ce n'est pas véritablement votre croyance qu'il a exaucée, pour ainsi dire. Il a rétabli un ordre de la réalité qui n'était pas celui que vous escomptiez. Et donc, dans un sens... Ce qu'a fait le génie des croyances, c'est exaucer un vœu, donc ce que fait le génie habituel. Donc, le genre de perplexité qui émerge autour de cette simple expérience de pensée, il me semble, fait émerger certaines choses qui sont ordinairement acceptées par la plupart des chercheurs sur le sujet. Premièrement, c'est que les croyances sont involontaires. Vous ne pouvez pas décider de croire quelque chose juste parce que ça vous arrangerait que ce soit vrai. Et donc, quand le génie des croyances vous interroge, vous ne pouvez pas lui dire « j'aimerais bien croire que, je ne sais pas moi, que la que la France gagne le prochain championnat du monde de football. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Ça n'a pas de sens de demander à un génie de faire en sorte que ce soit vrai. Donc les croyances sont involontaires dans ce sens-là. Vous pouvez pas décider simplement de croire quelque chose. Elles sont orientées vers la vérité. Si vous croyez quelque chose, même si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous avez tendance à penser que c'est vrai. Ça n'a pas de sens de croire quelque chose que vous savez que c'est pas vrai. Les croyances, en outre, sont sensibles aux preuves. Donc, vous croyez qu'il y a une bière dans le frigo, vous ouvrez votre frigo, mais en fait, il n'y a pas de bière. Donc, à ce moment-là, votre croyance s'évapore. C'était pas vrai, vous vous êtes trompé, vous vous êtes mépris pour une raison ou une autre. Et donc, votre croyance traque la vérité à mesure que les preuves se présentent à vous. Et enfin, les croyances sont transparentes dans le sens où, généralement, on ne les considère pas comme des croyances. Elles font juste partie de notre arsenal mental. Ce sont des représentations sur l'état du monde. Le philosophe Frank Ramsey avait dit que les croyances sont la carte avec laquelle on navigue dans le monde. Effectivement, c'est comme une sorte de carte mentale qui vous permet d'évoluer dans le monde. Vous croyez que la boulangerie sera ouverte jusqu'à 17h, vous arrivez sur place et en fait la boulangerie est déjà fermée, vous êtes trompé, votre croyance était fausse. Tout d'un coup, vous réalisez que vous avez agi sur la base d'une croyance qui était inexacte. Mais vous n'êtes pas dit « Ah, je crois ceci et cela », vous avez juste agi dans le monde. Très bien. Comparons maintenant au genre de croyances contemporaines dont on parle beaucoup. Hein. Je fais un petit assortiment du type de manifestation à travers le monde à la faveur de la pandémie de Covid, de l'élection, de la non-élection de Donald Trump, et quantité d'autres événements qui ont un peu défrayé la chronique, avec des théories du complot, un mouvement anti-masque, anti-vaccin, anti-5G, anti-Bill Gates, anti-trafic pédosataniste, etc. Donc tout se mélangeait un peu comme ça dans les revendications, et en fait beaucoup là au milieu il y avait même à la place des nations à Genève le Raël, donc la secte raélienne qui profitait de surfer un peu sur cette occasion de se mêler aux gens mécontents. Donc, toutes sortes de conglomérats d'idées largement réprouvées par les autorités épistémiques, hein, les élites, si vous voulez, les chercheurs, les journalistes, certains politiques, d'autres ont tenté de surfer sur ce mécontentement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que véritablement il y a un trafic d'enfants pédosatanistes orchestré par l'État profond et quelques stars d'Hollywood? Est-ce que véritablement c'est le genre de choses que des gens, et même beaucoup de gens, croient au même titre que leur café est encore chaud, ou qu'il faut prendre la porte pour sortir, ou qu'il ne faut pas passer la tête à travers les murs, etc. Est-ce que c'est une croyance ordinaire que les gens auraient ? On peut se poser la question, est-ce que ces croyances contemporaines sont véritablement involontaires, ou est-ce que les gens décident de les accepter, décident d'y adhérer pour une raison ou une autre? Est-ce qu'elles sont orientées vers la vérité? Est-ce que c'est important que ce soit vrai ou pas vrai que les vaccins tuent et que les masques sont une machination pour nous glisser des nanoparticules dans le sang afin de contrôler notre comportement ou de réduire la population mondiale? Est-ce que véritablement ce genre de croyance s'évapore une fois qu'on a apporté un démenti, des arguments, des contre-arguments, ou est-ce qu'au contraire elles persistent? Est-ce qu'elles sont transparentes dans le sens où elles vont de soi pour les individus qui y adhèrent et ils n'ont pas besoin de se poser 36 000 questions à leur sujet, ou est-ce qu'au contraire elles sont plutôt très présentes à la conscience à tel point que à force de les affirmer, à force de les asserter, à force de signaler ces croyances et de les partager, il n'y aurait pas quelque chose d'un peu d'un peu suspect là-dedans. Alors, je pense que ces critères ordinaires, assez consensuels en philosophie sur la nature de la croyance, sont largement, ne s'appliquent pas à beaucoup de choses que précisément on appelle des croyances. Pour le comprendre, un peu d'histoire, un peu de théorie, hein, je fais un peu la version courte. Donc, dans le livre Croyez, le chapitre 2 est consacré à l'observation que je fais qu'à travers toute l'histoire de la philosophie, en fait, on a deux conceptions de la croyance qui soit vont ensemble, soit elles s'opposent, et qui parcourent toute l'histoire de la philosophie, au moins depuis Platon, hein. C'est-à-dire cette idée que la croyance pourrait être, d'une part, ici en jaune, simplement une représentation mentale, pour ainsi dire, naturelle, que nous tenons pour vraie, le type de croyance qui nous viennent du processus ordinaire de perception, hein. Il y a un arbre devant moi, je crois qu'il y a un arbre devant moi, parce que c'est ce que me disent les sens, et donc penser que c'est vrai qu'il y a un arbre devant vous, ça vous suffit comme élément. Et d'autre part, envers le fait que la croyance, en fait, c'est pas ça, c'est pas juste une simple représentation mentale, c'est justement le fruit d'une réflexion, d'un jugement ou d'un raisonnement qui porte sur cette représentation mentale. On retrouve ces deux éléments dans la définition que donnait saint Augustin de la croyance. Croire n'est rien d'autre que former une représentation avec un assentiment. Donc pour lui, une croyance, c'est quand on met les deux ensemble, vous avez une représentation mentale dans votre tête que vous tenez pour vrai, et le fait de la tenir pour vrai avec un acte de la conscience, de la volonté qui se replie, pour ainsi dire, sur de façon métacognitive, si vous voulez, sur ses propres pensées, pour lui donner son assentiment, eh bien, ça ensemble forme une croyance. On retrouve, y compris dans certains textes, chez Platon, une distinction entre fantasia et doxa. Fantasia, grosso modo, c'est ce qui est ici en jaune, et la doxa, c'est ce qui est ici en vert. Donc pour aller très rapidement, ces deux représentations de la croyance qui traversent l'histoire de la philosophie peuvent être considérées d'une part comme des croyances de premier ordre, simplement le genre d'idées qui traversent votre esprit. Et pour certains penseurs, et pas des moindres, hein, c'est ça qu'il faut appeler croyance. En particulier pour Spinoza et Thomas Reed, le simple fait de penser à quelque chose, qu'une idée vous traverse la tête, perception visuelle ou auditive pénètre dans votre cerveau, devient une croyance, vous la tenez pour vraie. Et évidemment, après coup, vous pouvez vous en débarrasser ou décider que finalement, c'était pas vrai. Mais sur le moment, toute représentation mentale, dans le fond, est tenue en quelque sorte pour vraie. Le fait d'imaginer quelque chose le rend vrai pour vous avant que votre esprit décide de s'en débarrasser. Donc c'est ça, une croyance. Beaucoup d'autres penseurs disent que non, ça c'est pas une croyance, la croyance c'est une croyance dite de second ordre, c'est quand on s'interroge sur la réalité, la véracité de ces représentations de premier ordre, en particulier chez Descartes. J'ai mis Hume ici simplement parce que c'est l'usage de l'opposé à Reed, mais Hume est un peu plus compliqué, donc je suis pas tellement sûr qu'il faut le mettre à côté de Descartes ici, mais peu importe, l'idée pour ces auteurs est généralement que la croyance est le fruit d'un raisonnement, le fruit d'une réflexion, d'un jugement porté sur d'autres représentations mentales. Et en fait, jusqu'à la philosophie contemporaine, on trouve beaucoup d'auteurs qui se placent d'un côté ou de l'autre. Il faut localiser la croyance. Alors, elle est où, la croyance ? Certains disent que la croyance, c'est ce qui affleure à notre esprit au premier ordre. Et d'autres disent que la croyance, c'est le fruit d'un jugement. Justement, c'est quand on décide que quelque chose est vrai ou faux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement parler de croyance. La question n'est évidemment pas réglée, hein. Il y a beaucoup d'auteurs, je signale ici, que j'ai mis entre les deux, parce que ceux-là pensent que, ou bien comme saint Augustin, qu'il faut les deux pour parler de croyance, ou bien disent, ces deux choses qui sont là fortement différentes, mais en réalité, on peut aussi bien accepter qu'il y a différentes sortes de croire, différentes sortes de croyances. En l'occurrence, il y en a deux. beaucoup d'auteurs jusqu'à aujourd'hui disent que, eh bien, oui, il y a deux façons de croire et on ferait bien de les distinguer. Voilà. Ces complications, en fait, sont pas totalement inertes comme ça. C'est pas juste le fruit de cogitation chez des intellectuels qui ont beaucoup trop de temps libre. Elles ont des implications directes sur notre compréhension des uns et des autres, et en particulier dans la science anthropologique. C'est quelque chose qui a soulevé beaucoup de controverses et beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'il faut faire des croyances, en particulier des croyances des autres. Populations, des autres civilisations, des autres cultures. Dans un article célèbre, Jean Pouillon, donc remarque sur le verbe croire, en 1979, disait « Eh bien, on ferait bien d'être prudent quand on attribue des croyances aux autres, parce que très souvent, il disait, c'est l'incroyant qui croit que le croyant croit. » Ce qui veut dire que c'est l'anthropologue qui va dire que telle ou telle peuplade a ces croyances-là. C'est lui qui le dit. Alors que la peuplade en question, pour elle, c'est pas des croyances. C'est l'idée qu'elle se fait de la façon dont fonctionne le monde. Et donc, quand on attribue une croyance à quelqu'un, il y a quelque chose d'un peu désobligeant, si on veut, puisque c'est pas des croyances pour la personne qui y croit véritablement. René Needham disait quelque chose de semblable dans un livre qui vient d'être traduit en français 50 ans après sa publication, il proposait à ses collègues anthropologues, en fait, de tout simplement renoncer à utiliser le mot croire, que c'était pas une catégorie utile, légitime dans la science anthropologique. Premièrement, parce que c'est un concept que lui considérait comme fortement occidental, que donc il est très difficile à traduire dans d'autres langues et d'autres cultures. Et que donc, on peut pas simplement projeter notre idée de ce que c'est que la croyance sur d'autres cultures qui ne disposent pas de ce concept, en tout cas pas de la même manière que nous. Et d'autre part, on peut pas non plus détecter les croyances. On est obligé de les inférer d'une façon ou d'une autre. Et donc, puisqu'il n'existe pas de méthode éprouvée pour attribuer des croyances à quelqu'un, puisqu'on n'a même pas de très bonne définition de ce qui est une croyance ou ce qui ne l'est pas, on ferait bien de renoncer à ce concept. Et évidemment, comme on sait, Paul Venn s'interroge sur est-ce que les Grecs ont cru à leur mythe. Un livre très connu, mais souvent décevant pour les gens qui le lisent, puisque la réponse à la question n'apparaît pas franchement de façon très saillante. Hein. Généralement, on dit la réponse à la question, c'est oui et non, ou bof, ou finalement, on ne sait pas trop. Paul Venn dit, rentrez pas justement dans le piège de répondre brutalement à la question est-ce que les Grecs ont cru à leur mythe. Justement, c'est une question compliquée. La croyance, en particulier au mythe, d'après lui, elle dépend du contexte, de l'interprétation qu'on fait de tel ou tel mythe. Justement, on peut prendre des bouts du mythe et en rejeter des autres. Des fonctions sociales et des régimes de vérité propres à chaque situation de croyance ou d'énonciation. Donc au final, ça dépend ce qu'on entend par croire, ça dépend la façon dont les gens croient dans tel ou tel moment historique. Et donc la notion de croyance est devenue un objet, en tout cas en anthropologie, assez douteux, considéré comme insaisissable ou même dangereux, qui témoigne bien souvent en fait, de l'égocentrisme de celui qui attribue des croyances. Mais les croyances dont parlent ces anthropologues sont justement des croyances souvent de type religieux ou métaphysique ou spirituel. Et je ne dis pas qu'il y a des croyances ordinaires et banales, alors qu'en fait, c'est ce que faisait remarquer un des pionniers de la discipline, hein, Evans Pritchard, en 1965. Avait des réflexions intéressantes en fait sur le sujet, donc je vais vous lire cette longue citation. Hein. Il disait que ses prédécesseurs, donc les anthropologues qui avaient voyagé dans d'autres cultures et noté un peu comment se comportaient ces cultures-là, ces voyageurs notaient tout ce qui leur paraissait curieux, barbare et sensationnel, en particulier la magie, les rites religieux barbares, les superstitions, tout ça l'emportait sur le train-train quotidien qui représente en fait les 9/10 de la vie de l'homme primitif. Bon, c'est son terme évidemment à l'époque, hein, l'homme primitif, je m'en excuse. Il constitue son principal souci au quotidien. Eh bien oui, ces gens-là, comme tout le monde, chassent, pêchent, ils récoltent des fruits et des racines, ils font des travaux agricoles, ils donnent des soins à leurs troupeaux, construisent une maison, fabriquent des outils et des armes, se livrent à ces occupations journalières, comme tout le monde. ces rapports anthropologiques n'accordaient pas la place qu'elle tenait réellement dans la vie de ceux dont on décrivait les coutumes. Par conséquent, en donnant une attention exagérée à ce qu'ils considéraient comme de curieuses superstitions occultes et mystérieuses, les observateurs avaient tendance à faire un tableau où le mystique occupait beaucoup plus de place qu'il n'en a dans l'existence des peuples primitifs, de sorte que le monde du quotidien, le monde du bon sens empirique, de l'ordinaire, semblait n'avoir qu'une importance secondaire. Et Van Sprichard met le doigt là sur quelque chose qui me paraissait très important en fait, et si on en revient à les Grecs quand ils crurent à leur mythe, peut-être que oui, peut-être que non, mais tous les Grecs quand même, et les Azandés, et les Nuer, et tous les peuples qui ont été étudiés, ont tout un tas de croyances sur, par exemple, le fait que leur voisin leur doit encore de l'argent, ou tel amphore ne pourra pas contenir une pareille quantité d'eau, ou cette chariole ne fonctionne pas parce qu'elle est cassée, et il conviendrait de la réparer avant la prochaine moisson, etc. Donc les gens ont vraiment des centaines de milliers de croyances au quotidien sur la façon dont il faut se comporter, sur la façon dont il faut discuter avec les gens, remplir les affaires courantes, éduquer les enfants, etc., qui sont jamais considérées véritablement comme des croyances parce que précisément elles sont banales, ordinaires, elles n'intéressent pas les anthropologues à la recherche précisément de la différence du sensationnel. Alors croire ou croiver, donc j'essaie de résumer un peu ce que je cherche à dire. Quelles sont les caractéristiques des croyances ordinaires? Donc je l'ai dit, elles sont orientées vers la vérité, elles sont involontaires, elles sont sensibles aux preuves, elles sont transparentes. Il y a bien d'autres critères qui ont été proposés, mais je m'en tiens à ceux-là qui sont les plus simples. Je pense, encore une fois, si on pense aux croyances comme des choses à la fois ordinaires et extraordinairement fréquente et répandue. On a tout un tas de croyances dans la tête. Quelles sont les caractéristiques de ces croyances, ce que j'appelle des croyances contemporaines, qu'elles ne semblent pas vraiment préoccupées par la vérité ou la véracité de ce qu'elles avancent, ne semblent pas s'efforcer de traquer la vérité. Elles semblent avoir d'autres buts. Elles semblent en outre souvent volontairement acquises. Du jour au lendemain, on devient persuadé que la chloroquine, ça marche, ou que sais-je, alors qu'en fait, on s'en fichait complètement jusque-là, et qu'on n'a pas les compétences pour en juger de toute façon. Donc, il semble y avoir un désir volontaire d'adhérer à tel ou tel contenu de pensée, à telle ou telle proposition. Elles semblent largement indifférentes aux preuves. C'est quelque chose qu'il faut un peu qualifier. Elles ne sont pas totalement indifférentes aux preuves. Elles sont sensibles à certaines formes de preuves, celles qui permettent de les confirmer en particulier. Mais elles ne semblent pas traquer la vérité dans le sens où elles s'adaptent au changement du monde réel. Dans un sens, elles semblent souvent artificielles, un peu curieuses, un peu surprenantes et mystérieuses, justement, comme disait Van Sprichard. Ce sont des croyances un peu étonnantes. Et néanmoins, elles sont prises pour des croyances par de nombreux observateurs, mais aussi par les personnes elles-mêmes qui les entretiennent, qui vont dire « oui, j'y crois ». Sans doute de bonne foi. Qu'est-ce que croiver ? Croiver, précisément, consiste à accorder le titre de croyance à des choses qui, selon moi, ne sont pas des croyances, ou en tout cas ne remplissent pas les critères ordinaires de la croyance. Je pense que ces croyances, elles sont si différentes des croyances ordinaires qu'elles forment une classe à part, et que donc on peut à la rigueur leur accorder le statut de croyance si on les appelle légèrement autrement, peut-être des croyances extraordinaires ou des crédences, comme on le verra. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs ont proposé tout un tas de termes pour distinguer ces deux sortes de croyances. Moi, je propose croyance. De même qu'on peut parler pour ne rien dire, à mon avis, on peut croire pour ne rien croire. Ça demanderait quelques développements, notamment autour de la notion de bullshit, mais je ne vais pas le faire maintenant, je vais essayer d'avancer un peu. Notez que comme les croyances en fait, et même les croyances irrationnelles dans un sens, les croyances peuvent être vraies ou fausses. On peut croire quelque chose de vrai pour des mauvaises raisons, puis tomber juste pour ainsi dire par hasard. Et les croyances en tant que telles peuvent parfois être vraies. Donc les croyances, c'est pas des croyances nécessairement fausses ou irrationnelles. Je dis que c'est pas des croyances du tout. C'est juste pas des croyances, c'est autre chose. Donc peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, c'est pas des croyances. Comment diable on peut en arriver à se convaincre qu'on croit quelque chose alors que dans le fond on n'y croit pas vraiment? Eh bien, Hume, dans son Histoire naturelle de la religion, disait quelques mots à ce sujet. Il appelait ça une opération inexplicable de l'esprit. J'aime bien ça, ça me dispense d'avoir à expliquer quoi que ce soit sur la façon dont ça se passe. Une opération inexplicable de l'esprit produit cette confusion entre croyance ordinaire et croyance. Évidemment, il avait en ligne de mire la religion. Hume disait que, eh bien, quand on parle aux croyants, ils disent croire tout un tas de choses, mais en fait, ils le font d'une manière qui semble un peu affectée, un peu impersonnelle. Ils semblent réciter le genre de choses qu'on leur a dit qu'il fallait croire en quelque sorte, et ils en arrivent à se convaincre que c'est à ça qu'ils croient. Donc ça, dans le contexte de Hume, c'était ça qu'il appelait une opération inexplicable de l'esprit, la transformation de quelque chose qui n'est pas véritablement une croyance en la conviction qu'il s'agit d'une croyance. Il y a beaucoup de critères qu'on peut utiliser pour distinguer croire et croiver. Je ne vais pas tous les faire ici. Je vais même sauter ça, je pense. Je pense que ce qui est important, c'est que nombre de ces critères, ça ne marche pas à tous les coups. C'est difficile de déterminer si quelque chose est une croyance ou pas une croyance. C'est difficile de distinguer croire et croiver au quotidien, au jour le jour. Hein. Mais si on s'en tient à un certain nombre de critères, je pense qu'on peut opérer une distinction dans le sens où il y a comme un cluster de caractéristiques qui permettent de séparer ces différents types de croire, si on veut. En particulier, les croyances ordinaires sont souvent assez banales, elles sont transparentes, comme j'ai dit, automatiques, involontaires. On les acquiert, pour ainsi dire, comme on respire. Hein. C'est encore une expression de Hume, disant on croit comme on respire. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Vous voyez quelque chose, vous y croyez. Et quelque chose de très personnel, chacun a ses propres croyances sur la façon dont est organisé le monde. Alors que les croyances sont souvent plus, on va dire, impersonnelles, mais partagées et souvent définissent les proclivités, les préférences de tel ou tel groupe social, servent souvent de badge de signalisation pour affirmer sa loyauté à un groupe. Et ce caractère social est distinctif et signalisateur de la croyance, n'a quasiment aucun rapport avec ce que j'appelle les croyances ordinaires. Alors, je ne suis pas le premier, donc j'essaie de me défendre un peu de dire des choses aussi extraordinaires. Disons que, dans le fond, ça a déjà été dit au cours de l'histoire de la philosophie. Par exemple, chez le cardinal John Henry Newman, dans sa grammaire de l'assentiment, en 1870, avait toute une théorie de la croyance extraordinairement sophistiquée. Hein, c'est assez complexe ce qu'il proposait. Je vais juste faire la version courte ici, mais il disait tout commence par une appréhension, c'est-à-dire que quelque chose nous traverse l'esprit, soit parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a entendu, ou parce qu'une idée fait pop de notre tête, comme ça. Et cette appréhension à nu, comme ça, elle va donner ensuite lieu à un assentiment, ou il disait aussi à une inférence, ou à un doute, ou à un rejet. Mais je m'en tiens ici à l'assentiment. Donc voilà, on a quelque chose qui nous traverse l'esprit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on voit. Maintenant, on a le choix d'y consentir ou non, pour ainsi dire. Et une fois donné cet assentiment, on aboutit à deux sortes, finalement, d'assentiments. Soit on aboutit à un assentiment qu'il appelait réel, soit on aboutit à un assentiment qu'il appelait notionnel. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'il appelait un assentiment notionnel, c'était précisément le genre d'idées qui circulent dans la société, par exemple, comme des traditions, des modes ou des principes, voilà, des rumeurs éventuellement, enfin quelque chose qui circule dans la société. Et cet assentiment est notionnel dans le sens où c'est l'idée, la proposition qu'on a entendue, les termes qu'on a entendus qui sont considérés comme vrai, auquel on donne notre assentiment. Et pour Newman, ça, bah justement, ce n'était pas des croyances du tout. Ces assentiments notionnels portaient simplement sur la notion qu'on accepte de tenir pour vrai. Un assentiment réel, la véritable croyance, porte non pas sur l'idée, sur la phrase qu'on a entendue, sur le principe qu'on nous a enseigné, mais sur la chose dans le monde réel en tant que tel. Et donc la distinction entre les deux peut parfois être assez subtile. Lui, il avait évidemment un intérêt pour la religion, et donc il fustigeait Newman, il condamnait les croyants, les personnes qui se disaient religieuses et qui n'avaient qu'un assentiment notionnel des dogmes qu'ils avaient appris par cœur et qui répétaient comme des perroquets sans vraiment en ressentir la réalité en eux. Donc, ils croyaient à des phrases, ils ne croyaient pas aux choses auxquelles se référaient ces phrases. L'assentiment réel, si tout va bien, c'est consiste à percuter une fois pour toutes en quoi consiste la phrase en question, à quoi elle se réfère. Et il donnait aussi des exemples qui sortaient de la religion, par exemple sur l'horreur que constitue deux exemples qui donnaient l'horreur de l'esclavage et aussi la mode des duels. Il disait, eh bien, c'est tant qu'on a tant qu'on a une idée notionnelle de ces choses-là, on dit c'est mal, l'esclavage, c'est pas bien, les duels, il faut arrêter avec ça, c'est pas bien. En fait, cet assentiment, il est bien gentil, mais il porte pas sur le monde réel, il a pas de portée sociale, il permet pas de persuader et de convaincre. Il permet pas de changer la société. Tandis qu'un assentiment réel, une fois qu'on a véritablement compris, ressenti de notre chair en quoi consiste l'horreur des duels et de l'esclavage, on réalise plus fortement pourquoi il faut changer ça. Donc, c'est ce qu'il appelle des croyances et des certitudes. Donc, probablement le premier auteur qui prend des choses qu'on appelle couramment des croyances et qui dit « ça, c'est pas des croyances, ça m'intéresse, c'est pas ça qui m'intéresse » et on a tort d'appeler ça des croyances et on a tort de croire que c'est des croyances. Plus loin, dans les années 90, en philosophie analytique, Cohen proposait une distinction entre croyance et acceptation. Alors voilà, pareil, hein, pour vous montrer que les idées que je partage avec vous ici sont pas vraiment révolutionnaires, hein, c'est que la plupart des auteurs en philosophie analytique conçoivent la croyance comme une forme de ressenti involontaire qui est fondée sur des évidences, des preuves qui tendent vers la vérité, qui sont indépendantes du contexte et qui forment un système généralement cohérent, une croyance en entraînant une autre. Donc jusque-là, pas de problème, ça c'est des croyances. Et ce qu'il appelait acceptation, c'est autre chose. Bon, c'est un peu technique, hein, mais c'est avoir ou adopter une stratégie, une politique visant à considérer, avancer ou postuler que P. C'est-à-dire à inclure cette proposition ou règle parmi nos prémices pour décider de ce qu'il faut faire ou penser dans un contexte particulier, que l'on ressente ou pas qu'il est vrai que P. Il disait que il n'avait pas jusqu'à dire que ces acceptations, ne sont pas du tout des croyances, mais se sont prises pour des croyances, mais il était vraiment pas loin. Et en fait, beaucoup, beaucoup d'autres auteurs ont surfé sur quelque chose dans ce genre-là. Hein. Je vous fais un peu la version courte, j'en cite que quatre ici, mais Keith Frankish, dans un livre assez ambitieux qui s'appelle Mind and Supermind, disait, bien d'une part, on a des croyances, donc pareil, des croyances ordinaires, automatique, involontaire, etc. Et d'autre part, il appelait ça des super croyances, des croyances virtuelles, des croyances super mentales, des croyances réflexives, des opinions ou des métacroyances. Autant de termes qu'il utilisait pour distinguer tout un tas de choses qui, d'après lui, n'étaient pas des croyances, étaient des espèces des croyances d'un autre niveau. Et en fait, il faudrait probablement mieux les appeler des engagements, des résolutions, des opinions ou des principes dans lesquels on s'engage sans y croire véritablement. Daniel Dennett était aussi un des premiers à aller assez loin sur cette question et distinguait ce qu'il appelait les vraies croyances et les vrais croyants des opinions. Dan Sperber est également très connu pour sa distinction entre croyances intuitives, qui sont les croyances de premier ordre, et les croyances réflexives, qui sont les croyances de second ordre, qu'il appelait aussi quasi-propositionnelles ou méta-représentationnelles, c'est-à-dire qu'on croit quelque chose que l'on se représente dans sa tête, mais on ne croit pas la chose en telle qu'elle, on croit à l'idée. Plus récemment, la psychologue Jane Reason faisait une distinction entre croyances et ce qu'elle appelle acquiescence, qui inclut par exemple les superstitions, vous savez, les genres de choses auxquelles on croit sans vraiment y croire. Elle appelait ça des acquiescences. Sperber proposait une analogie assez éloquente. Il disait, les croyances, c'est comme le jade. Je ne sais pas si on dit la jade ou le jade. Peu importe. Ce qu'on appelle jade, pierre précieuse pierre semi-précieuse, on va dire. En fait, c'est deux choses. Hein, c'est soit un composé chimique qui s'appelle la jadéite ou la néphrite. Ces deux choses, en fait, sont très différentes chimiquement, mais on appelle ça quand même jade. Alors, Sperber disait, de même que le terme commun jade correspond à deux substances, la jadéite et la néphrite, ayant des propriétés phénoménales similaires, sévères, en gros quoi, mais des structures chimiques fort différentes. Alors de même, le terme de la psychologie naïve, croyance, correspond à deux catégories psychologiques similaires quant à quelques effets comportementaux et épistémologiques, mais différentes quant à leur organisation cognitive et leur rôle. Et franchement, Sperber est souvent pas loin de dire que bien, peut-être qu'une de ces formes de croyance, c'est ça qu'il faudrait appeler croyance, et les autres, il faudrait peut-être les appeler autrement, mais il ne pousse pas le bouchon jusque-là. Celui qui va le plus loin là-dessus, c'est un jeune philosophe néerlandais qui s'appelle Niels van Leeuwen, qui lui alors va au bout de la chose, hein. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, dont le livre est sorti cette année, donc je vous le recommande, hein. c'est pas disponible en français, mais ce serait bien de traduire, c'est vraiment très bon. Ça parle essentiellement de religion, mais ça s'étend aussi à d'autres domaines. Donc le problème, c'est qu'avec la religion, évidemment, vous touchez une fibre assez sensible, et c'est souvent assez désobligeant de faire des théories sur qu'est-ce que c'est que la croyance religieuse, etc. Et donc les idées intéressantes dans le livre risquent un peu de passer à la trappe, parce que précisément on touche à cette question de la religion. Mais je vous assure que c'est quand même intéressant, même si on ne considère pas le thème en particulier de la religion. Donc d'une part, il dit qu'il y a des croyances factuelles, ce qu'il appelle une attitude cognitive primaire, avec les critères relativement semblables à ceux que j'ai avancés jusqu'à présent. Simplement, lui, il appelle ça indépendance au contexte. Quand on croit quelque chose factuellement, eh bien, peu importe où on est, qu'est-ce qui se passe, qui nous parle, etc. C'est quelque chose, on croit. Vous croyez que la boulangerie est ouverte jusqu'à 18h, quel que soit le contexte où vous vous trouvez. Les croyances factuelles ont une gouvernance cognitive étendue, disait-il, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de développer des raisonnements sur tout un tas d'autres domaines. Elles vous permettent aussi de diriger le genre de choses que vous êtes en mesure d'imaginer. Donc l'imagination, c'est pas open bar, vous pouvez pas imaginer n'importe quoi. L'imagination souvent repose en fait sur des croyances factuelles, de la façon dont gouverne le monde, dont fonctionne le monde. Et enfin, les croyances factuelles sont vulnérables aux preuves. Toujours mon exemple, hein, vous croyez qu'il y a une bière dans le frigo, en fait, il n'y en a pas. Pouf, votre croyance s'est évaporée avec votre bière. D'autre part, on a les crédences religieuses, et Van Leeuwen dit de façon assez provocante qu'il s'agit souvent en fait d'une attitude cognitive secondaire qui relève davantage du registre de l'imagination ou du jeu de faire semblant en quelque sorte, avec certains critères identifiables. Premièrement, un critère assez surprenant, la malléabilité de ces crédences religieuses. On a tendance à penser aux croyances comme des choses qui sont très difficiles à changer. En particulier les idées religieuses ou les dogmes religieux. Alors qu'en fait, la propriété de ce genre de croyance ou de crédence sont précisément que, puisqu'elles ne reposent pas sur leur orientation vers la vérité, elles sont aisément malléables, et de fait, la religion change énormément au fil du temps, sans qu'on s'en aperçoive véritablement. Mais c'est très facile à changer quelque chose qui ne repose pas finalement sur la volonté de traquer la vérité telle qu'elle est. Elles ont une orientation normative, ce qu'on parle, les croyances ordinaires. L'orientation normative, c'est que souvent ces crédences sont considérées comme bonnes ou mauvaises. Il est bon de croire certaines choses, il est bon de se tenir à telle ou telle croyance parce que c'est ce qui rendra le monde meilleur, etc. Donc cette orientation normative et morale, elle est évidemment absente de la plupart de nos croyances ordinaires. Et enfin, elles dépendent souvent d'une autorité spéciale, hein, en particulier des écritures, de tel ou tel influenceur, gourou, etc., qui en fait est dépositaire de la crédence en question. Personne n'est dépositaire de la croyance ordinaire et factuelle qu'il y a ou non une bière dans le frigo. Évidemment, ça ne dépend que de vous. Il n'y a pas de dogme autour de ça. Les croyances complotistes, je vais terminer dans une petite minute, sont de cet ordre-là, à mon avis. C'est pour ça qu'on peut sortir du registre religieux et adapter la même manière de voir les choses. des choses assez étonnantes, comme le fait qu'il existe un trafic pédophile dans une pizzeria à Washington, le fait qu'un membre secret du gouvernement américain s'exprime en signant Q sur un site internet globalement consacré à des questions misogynes, antisémites et racistes. C'est bizarre. Le fait qu'un type habillé comme ça pénètre dans le Capitole, le fait qu'on parle de terre plate, le fait qu'on parle de reptiliens ou de chemtrails, soulève des interrogations quant au statut de croyance véritable qu'il faut accorder à ces mythologies contemporaines, si on veut, qu'on comprend à mon avis beaucoup mieux si elles sont considérées comme des signes d'affiliation, donc croyance, des choses qu'on met en avant sans avoir besoin véritablement d'y croire et en se fichant quand même un peu qu'elles soient vraies ou fausses dans la mesure où elles ont d'autres fonctions. Et c'est comme ça que je vois le complotisme, en fait, c'est comme une forme d'initiation, donc il faut apprendre à exprimer ces croyances-là, il faut apprendre à les défendre, ce qui est très différent de la simple crédulité où vous tombez sur une théorie du complot et par mégarde, pour ainsi dire, vous y croyez. Si c'était le cas, quelqu'un viendrait vous dire, mais attends, tu t'es mépris, en fait, il s'agit d'une théorie du complot, il n'y a aucune preuve pour ça, puis là vous direz, ah mince, c'était une théorie du complot, je me suis fait avoir, mais évidemment ça ne se passe pas du tout comme ça, donc on est pas dans le simple registre de la crédulité où les gens se font avoir par tel ou tel biais cognitif ou par tel ou tel mécanisme d'influence. Il s'agit plutôt d'une démarche. Les gens ne tombent pas sur des contenus complotistes, ils vont les chercher activement et même des fois ils y participent, ils les fabriquent. Ce qui implique que le complotisme consiste dans une forme de pratique. Je dis même que les gens font, il y a des exercices complotistes, de même qu'il y a des exercices spirituels, hein, pour parvenir enfin à croire à quelque chose. Eh bien, on fait des exercices spirituels et des exercices complotistes pour s'habituer à faire mine de croire à ces choses-là. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, vous avez une communauté complotiste qui vous aide, qui vous offre les méthodes, la rhétorique à adopter dans votre chemin complotiste. Donc, ça forme une communauté. Et enfin, le complotisme a tendance à s'automatiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est habitué à réfléchir en ces termes-là, on a des réflexes inférentiels, on a mis sur place des défenses épistémiques pour rejeter la critique ou pour s'en nourrir, et on met en place aussi des pratiques offensives et préemptives contre précisément les ennemis ou les adversaires, qu'ils soient réels ou imaginaires. Et je pense que toutes ces thématiques-là renvoient, à mon avis, à cette idée que les croyances ont des fonctions tout à fait différentes que de simplement se demander ce qui est vrai ou faux dans l'état du monde. Et ce que je dis, c'est que la croyance, en fait, c'est la domestication de la croyance. C'est-à-dire qu'on a déjà un registre cognitif capable de croire. Heureusement, on est tous capables de croire tout un tas de choses. Ça nous aide au quotidien. Surtout que ces croyances ont pour nature d'apprendre, de s'adapter à la réalité. Donc on peut, si vous voulez, exploiter ce système qui est déjà disponible clé en main de formation des croyances et faire passer pour des croyances des choses qui n'en sont pas. Donc on peut imaginer des choses au lieu de les croire et se figurer qu'on les croit. On peut exploiter l'architecture mentale de la croyance pour y placer des contenus exogènes qui en principe n'ont rien à y faire mais qui vont y entrer pour prendre la place, si vous voulez, des croyances ordinaires, ce qui permet de rendre ce croyable, ce qui ne l'est pas, et même lui donner le cachet de ce qui est évident et ce qui va de soi pour vous. Au-delà de l'individu, ça autorise et ça encourage la fabrication d'une infrastructure épistémique et normative qui légitime la croyance, ce qu'on appelle un marché de rationalisation. Donc, des pseudo-experts, des sites internet, des livres, des conférences, des réunions, tout un business de produits dérivés aussi, qui permet en fait de rationaliser votre croyance, de montrer que d'autres gens sont avec vous et qu'en adhérant à ces contenu, vous affichez votre loyauté envers ce groupe particulier. Vous vous distinguez non seulement au sein de ce groupe, mais évidemment du reste de la population, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux, qui ne sont pas éveillés ou qui sont des moutons. Cette dynamique conduit de façon, j'avoue que c'est provocant, hein, mais conduit à une illusion de croire. On arrive à se convaincre qu'on croit à ces choses-là. On ne fait pas semblant de croire, on croit véritablement qu'on le croit. Ce qui a des conséquences éthiques et pratiques. Bon, sur la question de l'éthique des croyances ordinaires, évidemment, il y a un long débat en philosophie hein, qui date au moins de peut-être vous connaissez cette maxime de Clifford qui disait qu'on a tort toujours et partout de croire quelque chose sur la base de données insuffisantes. Bon, la plupart des commentateurs ont quand même fait remarquer que c'était un peu fort. Peut-être que on n'est pas obligé d'avoir des données suffisantes pour se risquer à croire quelque chose, sans quoi on serait paralysé, évidemment, on ne pourrait jamais rien faire. Et on devrait tout le temps vérifier. Mais enfin, reste l'idée qu'il y a une certaine éthique, une responsabilité épistémique des choses qu'on accepte ou non de croire. Quelque chose qui est relativement consensuel. On n'est pas libre. Libre de croire absolument tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, on a des responsabilités vis-à-vis de ça. Mais qu'en est-il du croyant, quelqu'un qui croit qu'il croit quelque chose? Je pense que l'éthique de la croyance doit être fondamentalement différente de celle de la croyance, puisqu'on ne parle pas du tout du même sujet. Donc on a deux phénomènes auxquels il conviendrait de s'intéresser. C'est l'aliénation personnelle qui est réalisée par cette espèce d'opération inexplicable de l'esprit où on en vient à croire que l'on croit quelque chose, et la polarisation sociale à laquelle ça contribue, puisque les croyances ne sont jamais inerte et banale et transparente, elle vise la plupart du temps à se positionner sur l'échiquier social, et souvent d'une façon qui a tendance à s'extrémiser et à se radicaliser, puisque vous n'êtes pas contraint par les normes ordinaires de formation de croyance. Donc il y a une éthique sur laquelle il faudrait se pencher, qui a des ramifications sur comment il faut agir pour gérer en fait cette prolifération de croyances. Et j'en reviens, c'est ma dernière slide, au résumé du début. Donc je disais que parfois on croit des choses fausses, mais nous croyons surtout des choses vraies. Et donc un de mes objectifs, c'est de réhabiliter le concept de croyance. Il n'y a rien d'infamant dans l'idée de croyance, il n'y a rien de glorieux non plus dans l'idée de croyance. Simplement, c'est notre manière d'appréhender le monde du mieux que nous pouvons. Si tout va bien, souvent nous avons raison et nous avons des savoirs et des connaissances, mais la plupart du temps, nous en restons à des croyances qui font assez bien le job pour nous aider à naviguer au quotidien. Alors, certaines choses qu'on appelle croyances ne sont en fait pas des croyances. Ça, c'est l'aspect provocant de la thèse. Hein. Je pense que cette idée-là permet de mieux saisir certains phénomènes contemporains, en particulier le complotisme, si on renonce à l'idée que c'est des croyances. Que c'est des gogos, des gens crédules, en fait, c'est tout autre chose. Et je pense que ça permettrait, ou ça devrait en tout cas permettre d'affiner les moyens de contrecarrer la prolifération de ce genre d'idées. Mais évidemment, je ne vous dirai pas maintenant pourquoi et comment exactement faire ça. Nous pouvons avoir l'impression de croire des choses auxquelles nous ne croyons pas, nous pouvons croire que nous croyons. Cette idée également provocante permet, à mon avis, de revisiter certains phénomènes psychologiques, en particulier ce qu'on appelle le mensonge à soi-même, ou la dissonance cognitive, ou le biais de confirmation. Quantité de choses qu'on a de la peine à comprendre si, en fait, on considère qu'on est dans le registre unique de la croyance. Souvent, dans ces phénomènes psychologiques qui sont comme des conflits internes, ce qu'on a, c'est une croyance contre une croyance. Et à ce moment-là, je pense qu'on comprend mieux la possibilité de certains de ces phénomènes. Enfin, sur l'usage du terme « croivé », tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on peut appeler ça autrement si vous préférez. J'y tiens pas spécialement. En fait, probablement que ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc, je suis prêt à en discuter si vous avez un meilleur terme. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup à vous pour cette très riche intervention. Je crois que cette intervention extrêmement riche, extrêmement dense, devrait susciter des questions. Alors, on va voir si c'est... Ah ben voilà, monsieur, on a un micro, la vôtre. On va vous donner le micro pour que tout le monde puisse vous entendre.
Comment situez-vous les platistes? Ce sont des croyances, mais qui se confrontent à la réalité commune. C'est difficile d'être platiste aujourd'hui, je trouve.
Ah, c'est même le but d'adhérer à cette idée-là. C'est que c'est probablement l'idée la plus infamante de toute l'histoire d'humanité, qui a été littéralement inventée au fait pour discréditer en particulier la religion. Il y a très peu, quasiment personne au cours de l'histoire qui a véritablement défendu l'idée de la Terre plate. Il y a très peu, zéro preuve qu'en fait les gens y croyaient spécialement au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Donc en fait, il s'agit d'une idée artificielle quoi, qui ne sort quasiment de nulle part et qui est par essence une croyance à mon avis. Alors c'est possible que certaines personnes croient véritablement à certaines théorie du complot et la Terre plate. Je ne dis pas que c'est impossible, ça arrive peut-être, les gens peuvent se méprendre, y compris sur la forme de la Terre, mais ce qu'on observe autour du platisme, c'est l'émergence de quelque chose qui ressemble quand même à un mouvement, une dynamique sociale qui s'est installée à faveur des recommandations d'algorithmes sur les réseaux sociaux, qui a donné lieu à des conférences internationales, etc. Quoi. Donc, le platisme constitue une forme de communauté qui relève davantage du hobby et du snobisme épistémique, si vous voulez. C'est snob d'adhérer à une idée qui est réprouvée par quasiment tout le monde. Et l'idée qui est la plus réprouvée par le plus de monde étant l'idée de la Terre plate, elle est idéale pour se positionner en tant que penseur autonome et subversif. Donc il y a des bénéfices personnels quoi, qui peuvent venir ça. Il y a évidemment des coûts sociaux qui sont considérables, hein, notamment celui de se ridiculiser. Puis Hugo Mercier dit que c'est une technique qui consiste à brûler les ponts avec ces groupes d'affiliation antérieurs. Une fois que vous avez affiché votre croyance à la Terre plate, c'est difficile quand même de revenir en arrière puis dire non, en fait, finalement j'avais tort, elle est ronde. Ça fait, bon. Donc vous devez vous y tenir, vous devez vous y engager corps et âme. Puis encore une fois, ça ne correspond pas vraiment aux croyances ordinaires qu'on entretient au quotidien. Ça ressemble plus à quelque chose de très artificiel.
Alors, encore un grand merci à Sébastien Dieguez. Donc le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 20 mars, hein, même heure, même endroit. Nous recevrons professeur Pascal Angèle, qui viendra nous faire une conférence intitulée « Les croyances, les causes et les raisons ». Voilà. Merci et bonne journée.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.